Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 17 décembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à l'équilibre toujours, 87 000 $, un Ether qui repasse sous les 3 000, 2950. Et du côté des alts, on a peut-être Monero qui est à plus 5% sur les dernières 24 heures, 3% pour le World Liberty Financial de Trump qui est toujours à la 24e place, juste sous les 4 milliards de capitalisation, 2,55 pour Ethereum classique, c'est le cas également de PP et ICP. On a 5% pour Sky, anciennement Maker, également 2% autour du top 50 pour KuCoin et Ondo, 3,40 pour Caspa, et on clôture le top 50 avec Quant qui nous pousse 5%, Arbitrum, Official Trump, Algorand, Midnight et Atom Cosmos qui, pour Cosmos, est en train de passer sous le milliard de capitalisation. Donc on voit que ce top 50-60 est en souffrance puisqu'au fur et à mesure, on continue de reculer. Je vous rappelle que nos deux partenaires donc pour ce mois de décembre sont Desblock qui vous propose d'avoir un compte d'IBAN français, donc directement vous pouvez vous faire des virements, vous avez un compte non custodial crypto, la possibilité de mettre à travailler vos stablecoins mais pas que, d'avoir des rendements de DeFi qui sont tout à fait corrects, on est autour de 5,3% actuellement sur les USDC, donc c'est plutôt positif. Également vous avez la CB bien entendu et il y aura diverses autres choses qui arriveront au cours de cette année 2026 à venir. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur l'émission de lundi aussi, pour ceux qui sont soucieux de leur vie privée, vous avez le lien en commentaire et description pour moins 60% sur Inconi qui vous permet en temps réel d'agir sur toutes les datas qu'il y a à propos de vous, que ce soit le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone, tout ce qui a été pris contre votre gré et sur lequel Inconi va essayer d'interagir systématiquement pour aller faire retirer tout ce qui pourrait avoir attrait avec votre personne tout simplement. Maintenant que la petite minute de réclame est faite, on passe du côté de Fineco sur ce qui pourrait être déterminant pour toute cette année 2026 et notamment le fait que, bien qu'on en ait parlé précédemment plusieurs fois sur la chaîne, eh bien on y est maintenant en plein dedans sur cette année des midterms du président des États-Unis. Et donc comme il le rappelle ici avec un graphique à l'appui, historiquement le Nasdaq affiche une performance annuelle moyenne de moins 0,5% les années de midterms depuis 1950, donc 75 ans. Ces années sont souvent pénibles en première partie d'année avec de la volatilité et des drawdowns, puis un point bas qui se forme autour du Q3-Q4 juste avant les élections, ce qui, soit dit en passant, corroborerait très bien le cycle de 4 ans et le fait qu'on ait un bottom du côté du marché crypto autour de l'automne 2026. Je dis ça, je dis rien, mais je glisse ça par là. Le rebond qui suit généralement est puissant et le Nasdaq surperforme fortement dans la phase post-midterm qui est très sensible au retour de liquidité et à la baisse de l'incertitude politique. Donc on est tout à fait dans les clous de ce qui pourrait se passer au niveau de ce scénario historique. En tout cas, pour ceux qui auraient envie de jouer la statistique de 75 ans, comme d'habitude, chaque année aura ses spécificités, mais c'est vrai que quand on regarde vraiment, même je crois qu'il y avait Xavier Delmas dans une de ses dernières vidéos qui était remontée sur une centaine d'années, on a la première année qui est en général pas mauvaise, la seconde qui est la plus catastrophique des quatre de ces quatre années de présidence américaine, la troisième où on a souvent un quasi x1,5 à x2 de la performance de la première année, donc admettons que le S&P et le Nasdaq fassent 8% la première année, la deuxième on va plutôt être à 3% en moyenne, quelque chose dans ces eaux-là, la troisième on va plutôt être sur de l'ordre de 12 à 15% de performance médiane généralisée, donc c'est assez énorme, et la quatrième c'est un peu un mix de tout ça, où voilà, le président sortant n'a plus guère d'intérêt et où les marchés finalement sont tournés vers l'avenir. Donc très curieux d'avoir votre avis sur ça spécifiquement dans les commentaires, n'hésitez pas, on essaiera de répondre et d'interagir avec vous au sujet justement de ces midterms. Qu'en pensez-vous par rapport aux États-Unis et l'impact que ça pourrait avoir l'an prochain sur l'ensemble des marchés? En attendant, on a le Japon donc qui est en train de vendre et qui se débarrasse de pas mal de liquidités actuellement avec 534 milliards d'ETF en termes de holding qui ont été ventilés et on a un long plan donc pour passer tout ça petit à petit, le tout avec des taux qui sont en train de remonter fortement du côté du Japon, donc ça n'a pas l'air d'inquiéter plus les marchés pour l'instant, mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération pour la suite. Le platine et le palladium qui continuent selon Bob Lucas dans une uptrend assez soutenue et c'est également le cas du silver, l'argent qui vient de faire un nouveau point haut autour de 66 $, quelque chose dans ces eaux. niveau-là. On le regardera dans un instant au niveau de l'analyse technique. Tesla qui est en train de finaliser la figure en séance, et d'ailleurs on l'a dépassé hier puisqu'on est désormais sur un nouveau point haut au niveau de Tesla, un record historique à $490. Donc est-ce qu'on va avoir ce chart qui va s'extraire de cette très longue consolidation et qui va permettre au cours d'aller revisiter une phase un peu plus exponentielle et parabolique telle que l'a toujours fait le cours de cette action? Voilà, pour l'instant on pose ça là, et c'est vrai que Tesla, comme je l'ai décrit bon nombre de fois dans les émissions précédentes, c'est à la fois une société dans laquelle on pourrait se projeter un peu comme un Apple-like des années précédentes, des années 2000 à 2020 par exemple, et d'un autre côté on a un Elon Musk qui est à la fois le moteur de cette propre société et qui est un personnage des plus sulfureux et complexes à appréhender, et notamment sur l'aspect politique, ingérence et bon nombre d'autres choses. Donc c'est une société qui continuera d'être sous nitro, qui continuera d'avoir beaucoup de volatilité, qui n'aura de cesse d'attiser un peu ce truc, voilà, un peu comme un feu incandescent, et pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Donc comme d'habitude, je ne cherche à convaincre personne, et même moi, voilà, en tant que spéculateur avisé, je me pose pas mal de questions aujourd'hui sur le fait de détenir ou non du Tesla au long terme, mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, et ça serait dommage de l'occulter. MetaMask, on clôturera sur cette info, prend désormais en charge le réseau Bitcoin, et ça n'est pas rien, puisque vous allez pouvoir directement stocker du Bitcoin sur votre MetaMask, mais en plus le swapper, c'est-à-dire l'échanger, hein, on va essayer de parler français puisqu'on s'adresse à une communauté francophone, avec la possibilité de passer du réseau Bitcoin à Ethereum, à Solana, puisqu'il y a aussi Solana qui est pris en charge désormais par MetaMask. Donc peut-être une corde à rajouter par la suite à Rabi, l'excellent wallet EVM, donc pour un jour permettre également d'avoir l'arrivée de Bitcoin sur ce dernier. L'analyse technique, on va essayer d'aller assez vite. Aujourd'hui, c'était une émission intermédiaire. Comme vous le voyez, il ne se passe pas fondamentalement de grandes choses qui viendraient transcender la vie qu'on a eue précédemment. Donc on reste sur ce qui a déjà été dit finalement. On est toujours sur une trend de moyen terme qui est dégradée, long terme qui est toujours haussière, et court terme qui est tout aussi dégradé. Donc le court moyen terme, voilà, on navigue à vue. On pourrait avoir donc soit au cours de ce début d'année 2026 le rebond jusqu'au fameux 100-102 000. Maintenant qu'on est de nouveau au contact de la moyenne mobile 100, ici autour de 86K, on y croit de moins en moins, mais c'est peut-être ce que veut le marché, hein, dégoûter un maximum de personnes, faire sortir les mains faibles, comme ils les appellent, pour par la suite remonter plus haut. Bien entendu, je dis ça avec beaucoup de recul, puisque de notre côté, on n'a jamais qualifié qui que ce soit de main faible. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, il vend, il achète, et il n'y a aucun jugement de valeur de notre côté du moment que vous avez arrivé à retirer quelque chose de positif du marché, et surtout que vous arrivez à respecter votre propre plan. Et ça, c'est pas gagné, puisque je peux vous garantir que le joueur qui jouera le plus contre vous, finalement, c'est vous-même et votre psychologie. Quand on investit, il y a forcément des moments où on se sent moins bien, il y a forcément des moments où on fait un peu tout et n'importe quoi, et c'est vrai que c'est ces moments-là qui peuvent avoir des conséquences au long terme assez désastreuses sur nos portefeuilles. Donc aujourd'hui, on a un statu quo au niveau de Bitcoin. Ça fait un mois vraiment qu'on fait le yo-yo autour de 90K, on a une acceptation de ce prix, mais c'est pas pour autant que les acheteurs ont repris la main. Donc pour l'instant, on considérera sur ce début 2026 qu'on pourrait avoir en effet une continuation baissière, avec pour objectif final, comme là aussi on l'a vu un nombre incalculable de fois, autour de cette zone à plus ou moins 5-10 000 $, des 50-55 000 $. Le crypto total, c'est pareil, ça fait un mois qu'on essaie de raccrocher le wagon des 3 000 milliards, mais on se fait repousser systématiquement. On voit que les vendeurs montrent les dents. Donc le FIBO suivant serait autour de 2500 milliards et celui d'après autour de 2000. Donc franchement, en termes de compte rond, là pour le crypto total, on ne peut pas faire plus simple. Vous avez même vos zones de DCA qui sont déjà prévues à l'avance. ETH toujours sur une médiane de range, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais autour de 2900 $. Si on passe en dessous, on a la moyenne mobile 200 autour de 2450, le gros pivot des 2100-2150, le point bas d'il y a deux cycle qui avait été défendu au moment des tarifs de Trump, donc autour de 1400 $. Donc aujourd'hui, La fourchette la plus intéressante serait quelque part entre 1 400 et 2 000. La fourchette un peu aventureuse commencerait à partir de 2 500 $ pour Ethereum. Du côté des métaux, comme on le disait tout à l'heure, donc on a effectivement le silver qui est venu chercher 66 $. Donc il était à peine, allez, remontons à mars 2025, à 28 $. Donc vous voyez qu'il y a toujours des choses à faire, multimarché. Et aujourd'hui, ne me dites pas, oui, comment j'achète du silver ou du gold? N'importe quelle application, Bitpanda, on a du Revolut, on a toutes les néobanques qui le proposent nativement dans leur application. Donc à partir du moment où vous vous intéressez vraiment à la sphère des marchés dans leur intégralité, il y aura toujours un marché qui va vous proposer comme ça un décalage ou une opportunité. Le but, c'est de savoir les observer justement et d'être là au bon endroit au bon moment. Pas maintenant qu'on est à 66 $ et qu'on est vertical, bien entendu, sur le silver. Ça peut continuer, hein, bien entendu, mais là, voilà, c'est exactement comme sur le gold. Il y a des gens qui achètent aujourd'hui du gold à 4 300 $ l'once, et on l'a vu la dernière fois, la Chine en fait partie, mais eux, ils achètent pour des centaines d'années. Nous, on sera même plus là. Enfin, voilà, il se sera passé beaucoup de choses et l'eau aura coulé sous les ponts, comme on dit. Donc, à partir du moment où nous, on a une vie, en gros, où on se dit on va vivre jusqu'à 80, 90 ans, nos objectifs de temps sont beaucoup plus réduits que des superpuissances, bien entendu, et il faut voir, on va dire, de 5 ans en 10 ans à peu près pour voir ce qu'on arrive à faire sur l'intégralité de ces marchés. Ceci étant dit, ben, l'or qui nous offre une trend parabolique, c'est le cas de le dire, avec une belle courbe comme ça elliptique, montante, c'est exactement ce qu'on a vu par le passé au niveau de Bitcoin et des différentes crypto-monnaies. On comprend aussi aisément pourquoi, avec autant de flux qui se sont cloisonnés sur l'IA et sur les métaux précieux, on peine à avoir des nouveaux arrivants et des nouveaux flux finalement qui arrivent jusqu'au marché des crypto-monnaies. Le dollar qui n'a pas dit son dernier mot, 98.6 ce matin, les 98 ont été défendus pour l'instant. Donc là aussi, ça fait pas mal de temps que voilà, on fait un petit peu le yo-yo entre les 96 et les 100 points. On va voir ce que pourrait offrir ce début 2026 pour le dollar américain. Il est à noter que si la liquidité américaine est en train de faire un nouveau point haut, la liquidité mondiale, elle, est en train de reculer légèrement. Donc, on est à 22 trillions pour les États-Unis, tandis que le global mondial est autour de 55. Donc, il inclut au niveau de cet indicateur les États-Unis, le Japon, on a le Canada, on a l'Europe, on a l'Angleterre. Ça prenait le maximum possible, cet indicateur des superpuissances, entre guillemets, ou des pays les plus développés. Après, on pourra toujours jouer sur le fait qu'on n'a pas intégré justement les pays en voie de développement, type Inde ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez un meilleur indicateur que celui que j'ai ici, et bien entendu que soit on le remplacera, soit on verra pour essayer de vous donner une information qui est toujours plus juste. Toujours est-il aujourd'hui, on voit que ça fait pas mal de temps, hein, depuis ici à peu près autour de mai 2025, que la liquidité est à plat. Alors c'est toujours mieux qu'elle soit à plat, bien entendu, qu'en descente absolue comme elle l'a été ici en 2022, mais pour l'instant, voilà, est-ce qu'on repart en 2026 avec une belle dynamique au niveau de cette liquidité mondiale, ce qui permettrait de continuer à faire la part belle, notamment aux actions. Pas forcément les actions auxquelles on a été habitué, notamment les supersets et l'IA, mais peut-être les actions de santé, de consumers, d'infrastructures, et notamment justement sur ces pays émergents. Il y a pas mal de choses à jouer de ce côté-là, mais voilà, pour l'instant, ça reste des tests d'investissement. Est-ce qu'elles vont se réaliser? C'est là où il faut tout simplement essayer d'étudier un petit peu comment on jauge au niveau de notre portefeuille la répartition qu'on fait de ce dernier. Au niveau des actions américaines, on a Robinhood qui continue de corriger légèrement, peut-être un bull flag ici ou le début d'une correction un peu plus marquée. En tout cas, on est tellement haut par rapport à l'époque où on en parlait quand on était à plat ici et qu'on était rentré entre les 8 et les 14 $ qu'aujourd'hui à 150 voire 120 $ sur lesquels on est. Personnellement, ça m'intéresse pas encore, vous vous en doutez bien. Le mieux serait de pouvoir la payer un jour autour de la moyenne mobile 200, c'est-à-dire à 32 voire 35 $ dans les prochains mois. Enfin voilà, ça s'est demandé quand même beaucoup, mais à partir du moment où on a des actions comme ça qui ont réalisé le plus gros de leur uptrend, c'est toujours pareil. Cette fameuse asymétrie au risque de combien je pose sur la table, pour combien je peux gagner, pour combien je peux perdre en face. Donc à ce jeu-là, on a Tesla effectivement qui risque de résoudre une contraction de prix dans un grand range. Si on prend le premier point haut de ce range, on était ici en novembre 2021. Donc c'est une action qui historiquement a eu tendance à faire des grands ranges, des des expansions, grand range, ainsi de suite. Est-ce que cette fois-ci est la bonne? Bon, comme d'habitude, j'aime pas trop essayer de me frotter au breakout, mais à partir du moment où on aura franchi durablement les $500, je suppose qu'on pourrait voir une accélération là aussi sur Tesla, mais ça reste quand même dangereux à court terme hein, à spéculer ce genre de breakout. On l'avait vu la dernière fois avec Air Liquide, ça a été payé, mais voilà, c'est assez timide pour l'instant hein, pour le marché. Un rattrapage qui avait eu lieu autour de 157 €, on avait la moyenne mobile 200 à 152 juste en dessous. Le momentum du MACD est petit à petit en train de faiblir, mais c'est encore un peu trop tôt. On aimerait avoir un point bas comme on avait eu ici en décembre 2024 assez propre, et un simple retour donc à partir de la zone sur laquelle nous trouvons jusqu'à l'ATH, c'est 18% pour Air Liquide. Alors ça peut paraître anecdotique 18% quand on vient des cryptos, mais pour des actions comme ça qu'on peut garder notamment sur les PEA etc. pour du long terme, et comme je disais dans la dernière émission, pour ceux qui veulent passer au nominatif, vous avez des bonus notamment tous les 2 ans de détention etc. Alors je suis pas là pour leur faire de la pub hein, clairement, mais c'est des choses qui pourraient correspondre nous dans la crypto à si on mettait quelque chose en staking et que petit à petit on en tirait un bénéfice. Donc voilà, je fais des analogies entre guillemets pour simplifier, mais c'est quelque chose qui peut faire sens quand on garde ce genre d'action pour du long terme, d'avoir des bonus et sur les dividendes et une action offerte tous les 2 ans pour 10 actions détenues. Du côté des altcoins, c'est toujours la déshérence, la souffrance, et même parmi les plus forts d'entre eux de ce cycle, j'ai nommé Hyperliquid, on est désormais sur un recul à date de moins 55%. Ceci étant dit, quand on fait un FIBO comme ça de l'ensemble du dernier mouvement, eh bien on voit que on est déjà sous le 0,618. Peut-être qu'on reviendra tester la mèche justement du 6 octobre, enfin du 10 au 11 octobre, la fameuse mèche qu'il y avait eu un peu multimarché, qui se trouve autour de $20. Ça en ferait une première zone intéressante peut-être pour Hyperliquid pour du long terme, en ayant bien en tête que si le Bitcoin finit sa course autour de 50 000, plus ou moins comme d'habitude, je dis 50 000 puisque ça parle à tout le monde, on reverra très certainement Hyperliquid autour de $10. Donc comme d'habitude, là, la symétrie au risque, est-ce qu'elle est déjà en notre faveur, blablabla. Je ne vais pas vous refaire tout le laïus, mais vous comprenez à peu près là où je veux en venir. On clôturera, allez, une fois n'est pas coutume, soyons fous, avec la Bitcoin dominance qui est toujours à plat, autour de 59%. Donc l'alt season, on se l'est collé au hum-hum sur ce coup-là, hein, sur ce cycle. On peut, je pense, toujours parler de cycle malgré tout, puisque quand on regarde un peu ce qui pourrait se passer en 2026, notamment au niveau des midterms de Trump, ça collerait parfaitement à la cyclicité des 4 ans du Bitcoin. Est-ce que cette fois-ci va être différente? Essayez de répondre à cette question. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.